VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 21 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, 18 djihadistes et un gendarme ont été tués dans le nord.
Au Bénin, pas de rencontre hier entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, l'opposant Boni Yayi, arrivé mercredi à Cotonou.
En République démocratique du Congo, les ADF resserrent leur étau sur Beni, dans l'Est, où l'on déplore plus de 60 morts en 3 semaines.
L'affaire ukrainienne, l'ambassadeur Gordon Sondland, un diplomate proche du président américain Donald Trump, dit avoir suivi les ordres de ce dernier.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 18 djihadistes et un gendarme ont été tués hier lors d'une riposte à une attaque contre la gendarmerie d'Arbinda dans la province septentrionale du Soum. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'état-major de la gendarmerie qui dit aussi que 7 gendarmes blessés, dont 2 graves, ont été évacués à Ouagadougou grâce à l'armée de l'air. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation État islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis début 2015, selon un compte de l'AFP, et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU.
L'ancien président béninois et opposant en exil, Thomas Boni Yayi, est arrivé hier à Cotonou. Il devrait être reçu par le président Patrice Talon pour résoudre la crise qui secoue le pays, selon le gouvernement, et certains membres de son entourage. Mais cette rencontre n'a finalement pas eu lieu. Monsieur Boni Yayi était accompagné d'une importante délégation de la CDAO impliquée dans la résolution de la crise béninoise. Mais la délégation avec laquelle il devrait repartir, s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec monsieur Talon. Les détails avec Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
C'est à bord d'un vol de Nigeria Air Force que Boni Yayi a atterri à l'aéroport de Cotonou. C'est une foule de sympathisants et de membres des forces coréennes émergents qui ont accueilli l'ancien président à l'aéroport. Il était accompagné d'une délégation de la CDAO qui s'est dépêchée de prendre la direction du palais présidentiel rencontrer le président Patrice Talon. Yayi Boni a simplement boycotté la rencontre avec son successeur pour se rendre chez Nice Fosoglo pour un tête-à-tête avant de prendre la direction du domicile de l'une des victimes des violences post-électorales. Selon Nourini Achari, membre des forces coréennes pour un Bénin émergent, la rencontre Talon Yayi n'a jamais été inscrite dans le programme. Boni Yayi va repartir avec la délégation de la CDAO, a précisé Kama Wasangari. Il est syndicaliste et sympathisant des forces coréennes pour un Bénin émergent. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Les représailles visant les civils se multiplient dans l'est de la République démocratique du Congo, où des rebelles musulmans ougandais des ADF ont attaqué la ville de Beni, faisant au moins 10 morts, malgré les unités de l'armée congolaise présentes dans la région. Des sources de la société civile parlent, elles, d'au moins 21 morts dans 2 attaques simultanées mardi soir sur Beniville et près d'Oicha, 30 km plus au nord. Au total, entre 60 et 70 personnes ont été massacrées, souvent à l'arme blanche, dans la région de Beni, depuis l'annonce, fin octobre, début novembre, d'opérations militaires de l'armée congolaise contre les bases des ADF. Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, a lancé mercredi un appel au soutien militaire de l'Union européenne et de la France pour mettre fin au massacre à Beni.
RDC toujours, l'ex-président Joseph Kabila a crevé ses plafonds de dépenses autorisés lors de sa dernière année au pouvoir. D'après la Cour des comptes, M. Kabila a consommé 5 fois plus que le plafond prévu par la loi en 2018. Éric Manerakidza.
La Cour des comptes dénonce notamment le paiement des dépenses de personnel, l'achat des fournitures et petits matériels, pièces de rechange pour l'équipement et location immobilière. Selon cette Cour, la plupart de ces dépenses non prévues au budget sont des dépenses courantes qui ne participent pas aux efforts de développement du pays. Ainsi, l'ex-président Kabila a dépensé plus de 61 millions de dollars pour des prévisions de dépenses plafonnées à 12 millions et demi de dollars en 2018, année de l'élection présidentielle du 30 décembre. Les recettes ont connu un taux de réalisation de 88%, ce qui n'est pas une performance, regrette la Cour des comptes en marge de l'adoption du budget 2020. Le Parlement doit adopter d'ici la fin de l'année un projet de budget d'un montant annoncé d'environ 10 milliards de dollars, le double de celui de l'année dernière. Kinshasa n'a pas les moyens de financer ses hôpitaux ni ses routes. Le FMI, Fonds monétaire international, s'était récemment déclaré prêt à consentir rapidement des facilités de crédit pour sortir la RDC de sa pauvreté généralisée, ajoutant qu'il est urgent d'accroître les recettes et de maîtriser et de rationaliser les dépenses afin de consolider la stabilité macroéconomique.
Au Cameroun, Maurice Kamto, rival malheureux du président Paul Biya en 2018, a lancé son parti dans la course aux élections législatives et municipales prévues le 9 février. Dans une circulaire, M. Kamto a annoncé la création, au sein de son mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'une commission en charge des investitures pour les élections municipales et législatives. Avant l'annonce, il y a 10 jours, de la date du 9 février, le MRC posait comme préalable le retour définitif de la paix dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, en proie à une violente crise séparatiste et l'adoption d'un système électoral consensuel.
La police du Zimbabwe a usé hier à Harare des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser des centaines de partisans du principal parti d'opposition. Ils étaient venus écouter un discours de leur leader, Nelson Chamisa, sur l'état du pays englué dans une crise économique catastrophique. Plusieurs personnes ont été frappées et blessées, a dit à l'AFP le porte-parole du MDC, le principal parti d'opposition au Zimbabwe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, Gordon Sondland, un diplomate proche du président Donald Trump, a directement impliqué mercredi le président américain dans l'affaire ukrainienne, l'objet d'une enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre M. Trump. Selon M. Sondland, le président républicain avait bien conditionné une rencontre avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, au lancement par Kiev d'enquête contre le candidat démocrate à la présidentielle de 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter.
Mais les républicains n'ont retenu qu'un bref passage de ce témoignage très attendu quand Gordon Sondland a reconnu que M. Trump ne lui avait jamais dit personnellement que l'aide était liée aux investigations. C'était fantastique, a lancé le président américain après avoir, dans un premier temps, tenté de minimiser sa proximité avec l'ambassadeur. Je pense qu'ils doivent mettre fin maintenant à cette chasse aux sorcières, a-t-il déclaré.
États-Unis toujours, modérés et progressistes se sont divisés lors du débat entre les candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine. Le jeune maire Pete Buttigieg, en pleine ascension, et le favori Joe Biden, critiquant le programme nettement plus à gauche des sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après un moment d'unité contre Donald Trump menacé par une procédure de destitution, les échanges ont rapidement opposé ces deux camps, le Benjamin à 37 ans de la primaire Pete Buttigieg se présentant en rassembleur. Puis il a taclé Elizabeth Warren, deuxième dans les sondages, en évoquant le débat sur la réforme de la santé qui divise le parti. Son projet est d'un passage vers un système de couverture universelle après 3 ans de mandat, tout comme la conversion immédiate proposée par le sénateur indépendant Bernie Sanders, ne sont pas la bonne approche pour rassembler les Américains. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a martelé qu'en ce moment, la vaste majorité des démocrates ne soutient pas une telle réforme. La sénatrice Warren, 70 ans, a défendu ses propositions progressistes en affirmant que la meilleure façon de rassembler était de construire une Amérique qui fonctionne pour tous, pas juste pour les riches. 17 candidats sont toujours en liste. Le trio de tête s'est consolidé ces derniers mois avec Joe Biden suivi des deux progressistes, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Mais Pete Buttigieg connaît depuis fin octobre une ascension fulgurante dans les sondages de l'Iowa, un état clé puisqu'il votera le 1er, le 3 février et plus récemment dans le New Hampshire qui suivra juste après le 11 février.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La minute éco, Nanit Talani.
Le gouvernement de Sao Tomé et Principe lance un appel d'offres international pour la construction d'un port en eau profonde dans le nord, écrit l'agence Ecofin. Profond de 16 mètres, le port sera doté d'un terminal polyvalent pouvant initialement accueillir des navires allant jusqu'à 30 000 tonnes. Les propositions d'intérêt devront être soumises avant le 20 janvier 2020. Elles devront inclure le financement, la négociation des contrats de concession, ainsi que le début et l'achèvement de la construction. Le ministère ghanéen des Terres et des Ressources naturelles a approuvé la recommandation d'accorder à Goldstone Resources un bail minier de 10 ans sur ses permis à Kokéri et Omas. L'entreprise n'attend plus désormais que la délivrance du bail, qui est essentiel pour le développement du projet. Les permis Omas à Kokéri sont situés dans la ceinture minéralisée à Chantier Gold Belt, dans la même région que le gisement très productif d'Obuasi, géré actuellement par AngloGold à Chantier. Pour terminer, le gouvernement nigérian fait appel d'une décision d'un tribunal britannique lui ordonnant de verser dans un délai de 60 jours 200 millions de dollars comme garantie pour obtenir un sursis à exécution dans un litige gazier portant sur 9,6 milliards de dollars avec la société offshore PNID. Le conflit concerne la construction d'une usine de traitement de gaz au Nigeria. Le projet n'ayant jamais vu le jour, PNID réclame des sommes énormes, accusant le Nigeria d'avoir violé l'accord en ne fournissant ni le gaz ni les gazoducs promis. En août, un tribunal britannique avait autorisé PNID à saisir plus de 9 milliards de dollars d'actifs auprès du Nigeria.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Younous Sankaré et Bordeaux ont trouvé un accord.
Oui, le Sénégalais et les Girondins se séparent à l'amiable. Écarté par Paulo Souza depuis l'été dernier, Younous Sankaré n'a jamais été réintégré par le technicien portugais. Le club reprochait notamment à l'intéressé son comportement. Une procédure de licenciement avait même été entamée à l'encontre du milieu de terrain. Bordeaux souhaite aux joueurs de retrouver un club. Mis à pied depuis le 5 septembre dernier, l'international sénégalais arrivé en provenance de Lille pour 3 millions d'euros en 2017 était sous contrat jusqu'en juin 2021. Younous Sankaré a joué 84 matchs avec les Bordelais, inscrivant 19 buts.
Hassania Agadir limoge son entraîneur.
Miguel Angel Gamondi peint ainsi la défaite en finale de la Coupe du Trône, lui qui avait encore un an de contrat. Hassania Agadir a perdu 1 contre 2 devant Tiad Athletic Sport de Casablanca, un club de deuxième division. Depuis 2 ans au club, l'Argentin a fini 3e du championnat à 3 reprises. Il a qualifié le club à 2 reprises pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Dans un courrier qui a fuité, les dirigeants du club marocain reprochent aussi à Gamondi son manque de respect envers les membres du comité directeur, sans plus de précision.
La police péruvienne en alerte maximale pour la finale de la Copa Libertadores.
4000 policiers, des hélicoptères et des drones ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la finale de la Copa Libertadores qui aura lieu ce samedi. C'est la première fois que le champion en titre argentin River Plate et le club brésilien Flamengo s'affrontent. Plus de 20 000 supporters argentins et brésiliens sont attendus. C'est la seconde fois en 2 ans que la finale est déplacée dans un nouveau lieu. L'an passé, la vénérable compétition de clubs sud-américaine a dû être délocalisée à Madrid entre les rivaux argentins River Plate et Boca Juniors après des violences survenues à Buenos Aires.
La MLS aura son All-Star Game à Los Angeles en 2020.
Oui, ce show du championnat nord-américain de football aura lieu le 29 juillet prochain. Le match opposera les meilleurs joueurs de MLS à une sélection de joueurs évoluant dans le championnat mexicain, une première. Depuis 2005, l'adversaire invité était un club européen. La dernière fois qu'un duel américano-mexicain a eu lieu remonte à 2003. Cet été, c'est l'Atlético Madrid qui a remporté le All-Star Game 3-0, succédant à la Juventus Turin en 2018 et au Real Madrid en 2017. La rencontre se déroulera au Bank of California Stadium, occupé depuis son inauguration en 2018 par le Los Angeles FC, où évolue l'attaquant mexicain Carlos Vela, sacré MVP de la saison écoulée. On reste ici aux États-Unis pour parler de basketball. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, Philadelphie et New York, 109-104, Washington et San Antonio, 138-132. Atlanta Hawks a été battu par Milwaukee, 135-127. Brooklyn et Charlotte, 101-91. Miami et Cleveland, 124-100. Toronto et Orlando 113 à 97, Dallas et Golden State 142 à 94, Chicago et Detroit 109 à 89 et Minnesota et Utah Jazz, Utah 103, Minnesota 95. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les députés provinciaux de l'Ituri ont voté une motion de défiance contre leur gouverneur dans un climat de tension. Ils ont débuté la séance dans la rue et procédé au vote dans un bureau ailleurs car tous les accès à l'Assemblée provinciale étaient bloqués par la police. Eddie Isango a joint en Ituri le gouverneur destitué Jean Bamanissa.
D'abord, sur le fond du dossier, je dois vous dire qu'en général, c'était 16 pages où il y avait des plaintes plutôt à caractère un peu personnalisé. Mais sur le fond du dossier, il n'y a rien qui puisse nous ébranler. Et puis deux, cette motion nous a été déposée lundi à 11h et avec fond de tension. Nous n'avons pas pu accéder à l'Assemblée, à la plusieurs bâtiments de l'Assemblée plénière. Et entre-temps, nous étions aussi fort occupés avec une grande conférence, une table ronde sur l'électricité en Ituri. Nous avions sollicité les reports et nous ne pouvions pas entrer, mais nous avons appris après que quelques députés se sont retrouvés et ont décidé ou ont sollicité ou ont pris la décision. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement. Je ne suis pas encore notifié pour voir la forme de ce type de décision parce que je n'y étais pas pour demander ma destitution. Donc on en est là. Si la procédure n'a pas été respectée, je ferai un appel au niveau légal parce que je le sens vraiment auprès de la population et de beaucoup de monde qui ont soutenu notre travail qu'il y a une déception et nous n'allons pas croiser les bras à cause de 20 personnes.
Mais ils vous accusent, vous, d'avoir bloqué l'accès à l'Assemblée provinciale?
Non, ce n'est pas le gouvernement qui bloque l'accès. Hein. Les instructions de maintien d'ordre public sont données par le gouvernement central parce que ce qui se passe ici, c'est de la manipulation et malheureusement, ce sont des choses, je l'ai dit au président de l'Assemblée, qui ne sont pas de nature à créer une bonne ambiance. Et donc, la police a pris des mesures de protection de certains édifices dans la ville.
Qu'est-ce qui va donc se passer? Parce que d'après la loi que les députés qui ont voté le 27 sur le 28 qui étaient là, vous devez présenter votre démission au président de la République.
On va voir, on va étudier ça, si la procédure était légale. Et surtout, comme je vous l'ai dit, le président et le vice-président étaient déjà appelés tout à fait cessantes et ne devaient pas se trouver à Bounia parce que leur démarche est une démarche qui n'est pas législative et qui a un fond qui n'est pas bon et qui n'est pas de nature à créer un espace de dialogue, etc. Donc voilà, on va voir un peu le fond, mais nous avons demandé en tout cas à toute la population de continuer à avoir confiance. C'est vrai que nous nous sommes battus dans une province où il y avait beaucoup d'insécurité. Notre démarche a été celle de réunir en tout cas tous les Ituriens ensemble, d'avoir une unité pour combattre les forces de division qui existent. Bon, c'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais notre travail a été, je crois, louable dans le sens où nous avons quand même ramené un calme relatif.
Jean Bamanissa, gouverneur de la province de l'Ituri, sous le coup d'une motion de défiance.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a déclaré cette semaine qu'il n'y aura pas de victoire militaire dans la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Il a relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre à Yaoundé et qui a été boycotté par les séparatistes anglophones. Idriss Fall a recueilli la réaction du professeur Aboya Ndong Manassé, directeur du GREDPA à l'université de Douala au Cameroun.
la perspective dessinée par M. Tshibonage rentre dans la vie largement partagée par la majorité des Camerounais. Ce sont leurs frères, ce sont leurs compatriotes qui ont pris les armes contre l'État du Cameroun et dont une guerre qui pourrait amener beaucoup plus de morts, de tueries, n'était pas rentable pour le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'un grand dialogue a été mené. Il y a des lieux identifiés comme étant des repères de ces sécessionnistes qui viennent attaquer les villes de Bamenda, de Koumba, de Boya, où l'armée pouvait régulièrement arroser des bombes de grenades. Mais le chef de l'État du Cameroun n'a pas franchi ce cap. Cela veut dire à profusion que cette crise ne peut pas se résoudre par la voie militaire uniquement, mais nécessite d'autres voies complémentaires.
Les séparatistes anglophones n'étaient pas conviés à ce dialogue.
Les séparatistes ne sont pas facilement identifiables. Je pense que les organisateurs de ce grand dialogue, en l'occurrence le Premier ministre, avaient effectué des consultations. Ils avaient fait des descentes sur le terrain où ils suscitaient que les uns et les autres puissent venir à ce dialogue. Et donc, ce sont ceux qui sont portés volontaires qui ont assisté à ce dialogue. Les autres n'ont pas voulu assister à ce dialogue parce que c'était un dialogue ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui pouvaient apporter de leur contribution à solutionner cette crise, puisque l'essentiel du grand dialogue était axé sur la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest.
Comment accorder plus d'autonomie à ces deux régions anglophones?
Bien entendu, à la sortie du grand dialogue national, il y a eu cette suggestion des commissaires qui indiquait qu'il fallait un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le chef de l'État camerounais a pris acte. Il a réitéré solennellement lors du sommet de la paix qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, en indiquant que le principe de ce statut spécial va être implémenté. Naturellement, ça peut être envisagé soit par voie de décret, soit par voie législative à travers les députés à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on fait de la vie des officiels camerounais, de leur propre bouche, ça sera un statut spécial dans le cadre du respect de l'intégrité physique du territoire. Ça veut dire que l'option fédéraliste est écartée, encore moins l'option sécessionniste, mais ce sera un statut spécial, notamment les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la justice.
Le professeur Aboya Ndong Manassé, directeur du GREDPA, l'université de Douala au Cameroun.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la longévité au pouvoir en Afrique. Le président Paul Biya vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun, alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir de certains dirigeants? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Programme alimentaire mondial met en garde contre une crise humanitaire dans la région du Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Dans un récent rapport, les Nations Unies dénoncent les violences qui entraînent les déplacements de la population, la faim et la pauvreté. Blanche Sanou.
Dans la région du Sahel, le Burkina Faso est l'épicentre de cette crise dramatique. Il ressort du rapport de l'ONU qu'au moins 486 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, ce qui porte à 860 000 le nombre total de personnes déplacées dans les trois pays sahéliens.
Au moment où nous parlons, des millions de personnes souffrent désespérément de la faim dans le Sahel. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des milliers de personnes sont tuées en raison de l'extrémisme et de la violence. Rien qu'au Burkina Faso. Le nombre de personnes déplacées a augmenté de 500% et un tiers de la nation est désormais une zone de conflit. C'est une catastrophe. Nous devons agir et nous devons agir maintenant.
Cette détérioration de la situation humanitaire au Burkina Faso est liée en grande partie à la forte augmentation de la violence où le nombre d'attaques dans la première moitié de 2019 a dépassé le total de 2018 avec 4 fois plus de victimes civiles que le total enregistré en 2018, rappelle l'ONU.
The world does not yet fully gasp.
Le monde ne comprend
pas toute l'ampleur de la crise humanitaire grandissante dans la région centrale du Sahel, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui est alimentée par de violents affrontements entre groupes armés, les déplacements de population, la faim et la pauvreté. Agissez maintenant pour lutter contre la faim au Sahel où toute une génération est menacée.
Le conflit au Sahel dévaste l'agriculture et les économies rurales et près d'un enfant sur trois n'est pas scolarisé dans de nombreuses zones touchées par le conflit, note l'agence onusienne. Cette année, 2,4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le Sahel central, un chiffre qui pourrait augmenter.
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la nourriture. Tout le reste peut attendre. Une fois que nous aurons de la nourriture, nous nous préoccuperons des vêtements.
En attendant, les Nations Unies ont intensifié leurs actions en fournissant cette année une aide alimentaire à plus de 2,6 millions de personnes dans les trois pays du Sahel, concentrant leurs efforts sur les zones où les besoins humanitaires sont les plus importants et où des déplacements massifs de la population ont eu lieu.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'Ordre national des architectes du Tchad a organisé une table ronde les 7 et 8 novembre à N'Djamena sur les villes africaines du futur. Table ronde qui a vu la participation d'experts internationaux dont les présidents de l'Union des architectes d'Afrique et de l'Institut américain des architectes. La question du financement de l'urbanisation a été abordée notamment avec des économistes, sociologues, urbanistes et ingénieurs. Jointe par Nathalie Barge, la présidente de l'Ordre, Ayat Ndiaye, nous fait part des recommandations issues de ses premières assises internationales.
Il a été question de faire une planification à plus long terme de l'urbanisation de nos villes pour 20 ans et au-delà, parce que jusqu'à présent, toutes les planifications se sont faites sur 5 à 10 ans. Et d'autre part, il a été recommandé que des constructions et des codes d'urbanisme puissent être élaborés au niveau africain et qu'ils puissent être vulgarisés et surtout appliqués. Les villes africaines sont différentes les unes des autres. Il n'y a pas un schéma type. Donc il a été surtout question d'une urbanisation adaptée et spécifique à chaque contexte.
Alors justement, en ce qui concerne les contraintes en relation avec donc les caractéristiques du continent, notamment la chaleur, la météo, les contraintes environnementales, qu'est-ce qu'il a été donc conclu par rapport à cela ?
Il a été recommandé effectivement de tenir compte de l'aspect contextuel, parce qu'une ville du Sahel n'est pas une ville d'Afrique australe. Il est important, je pense qu'aujourd'hui, de penser climat, de penser environnement, de penser espace vert notamment, parce que nous, particulièrement au Sahel, nous avons très peu finalement d'espace vert et nous plantons peu. C'était aussi de créer des filières de main-d'œuvre développée et professionnelle localement, une main-d'œuvre qui puisse prendre en charge l'édification de nos villes et de créer aussi des filières de matériaux de construction locale, c'est-à-dire penser aussi à une architecture bioclimatique qui serait finalement en fait adaptée un peu aux besoins des personnes qui occupent ces diverses constructions.
Alors en ce qui concerne le design de l'architecture, des habitations, des bâtiments, etc., est-ce qu'il en a été question également ? Parce qu'on parle des villes africaines du futur, donc notamment de mêler le moderne au traditionnel.
Effectivement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de définir une identité architecturale aussi au Sahel. Il y a plusieurs milliers d'années, l'architecture traditionnelle sahélienne était une architecture reconnue. Nous avons perdu un peu cette fibre identitaire. Il s'agit effectivement de repenser la ville moderne, pas forcément comme une ville futuriste ou une ville censée ressembler à tout ce qu'on peut voir à travers le monde. On estime entre 80 et 90% de la population qui est concernée par un type d'architecture alternative qui est encore à trouver. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de l'architecture traditionnelle archaïque qu'on connaissait en terre crue. Et on va directement de l'autre côté à l'architecture moderne en béton et finalement ça laisse très peu de marge et ça laisse très peu de possibilités pour les bourses intermédiaires qui finalement sont les plus nombreuses. Donc voilà un peu tous les défis qui est de penser aux logements sociaux. Donc il faut quand même qu'on puisse reprendre tous ces problèmes économiques et contextuels puis les régler à travers l'architecture et l'urbanisation.
Ayat Ndiaye, présidente de l'Ordre des architectes du Tchad, jointe à N'Djamena. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.